Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du vendredi 19 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Israël a lancé une attaque contre l'Iran. Aucun dégât majeur rapporté après les explosions entendues selon l'agence IRNA. Dissolution de la coordination des organisations de l'appel du 20 février au Mali.
La liberté d'association, l'existence des partis politiques, mais c'est garanti par la constitution de la République du Mali. Et aujourd'hui, nous ne faisons que dénoncer ces dérives autoritaires-là au Mali.
Au Kenya, le chef des armées et 9 responsables militaires tués dans un cache d'hélicoptère. La France et la République centrafricaine adoptent une feuille de route pour relancer leurs relations diplomatiques.
La dernière visite de Touadéra en France remonte à l'année passée, hein, au mois de septembre 2023, où il y avait déjà eu une tentative de rapprochement, mais cela n'est pas surprenant.
Le patron de la CIA prévient que sans nouvelle aide, l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année 2024. Les États-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Ne manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Israël a lancé une attaque contre l'Iran en représailles à l'attaque du week-end, ont rapporté les médias américains et iraniens jeudi soir. Par ailleurs, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les premiers à renforcer leurs sanctions contre l'Iran, ciblant le programme iranien de drones, l'industrie sidérurgique et les constructeurs automobiles. Alexandrine Rolognon.
Les médias d'État iraniens ont fait état d'explosions dans la province centrale d'Isfahan, alors que les médias américains ont cité des responsables affirmant qu'Israël avait mené des frappes de représailles contre son grand rival. Les systèmes de défense aérienne de plusieurs villes iraniennes ont été activés, ont rapporté les médias d'État, après que le radiodiffuseur officiel du pays a déclaré que des explosions avaient été entendues près de la ville d'Isfahan. L'agence de presse iranienne Fars a rapporté que 3 explosions avaient été entendues près de la base aérienne militaire de Shekari dans le nord-ouest de la province d'Isfahan, tandis que le porte-parole de l'agence spatiale iranienne, Hossein Dalirian, a déclaré que plusieurs drones avaient été abattus avec succès. Les rapports indiquent qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs ou de grandes explosions causées par l'impact d'une menace aérienne. Les vols commerciaux ont été suspendus temporairement à partir et à destination des aéroports de Téhéran. Israël avait déjà prévenu qu'il riposterait après que l'Iran a tiré des centaines de missiles et de drones sur Israël au cours du week-end dernier. La plupart d'entre eux ont été interceptés.
Au Kenya, le chef des armées Francis Omondi Ogola et 9 autres responsables militaires ont été tués dans le crash d'un hélicoptère hier dans l'ouest du pays. Jacques Aristide.
Notre nation a vécu un tragique accident aérien dans la région de Sindar. Je suis profondément attristé d'annoncer le décès du général Francis Omondi Ogola, a déclaré le chef de l'État William Ruto après une réunion du Conseil de sécurité qu'il avait convoquée en urgence. 2 autres officiers ont survécu au crash. Les responsables militaires étaient partis rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre d'une opération destinée à combattre les groupes de bandits qui sèment la terreur. Nommé à la tête des armées en avril 2023 par le président Ruto, Francis Ogola avait été accusé par des proches du chef de l'État d'avoir tenté d'empêcher la victoire de celui-ci à la présidentielle d'août 2022 face à Raila Odinga. Mais William Ruto avait défendu son choix en affirmant que Francis Ogola était la meilleure personne pour être un général. Passé notamment par l'école militaire de Paris, Francis Ogola avait débuté sa carrière en avril 1984 dans l'armée de l'air. Âgé de 61 ans, il était marié, père de 2 enfants et grand-père d'un petit enfant.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit jeudi à Kinshasa préoccupé par la décision des autorités de la RDC de rétablir la peine de mort. Les Nations Unies sont très claires, nous souhaitons l'abolition de la peine de mort partout dans le monde, a-t-il rappelé après une rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Un projet de loi controversé régulant strictement le fonctionnement des ONG a été adopté jeudi en première lecture par le Parlement au Rwanda à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Il prévoit d'imposer des règles strictes au fonctionnement des ONG et les oblige notamment à soumettre leur budget à l'approbation des autorités rwandaises. Le texte limitera l'espace civique car il donne aux législateurs le pouvoir d'interférer dans la gestion quotidienne des ONG, y compris dans le licenciement du personnel, a expliqué le chef de la plateforme et de la société civile du Rwanda, Joseph Nkurunziza. La ministre au cabinet du président Judith Uwizeye a de son côté défendu jeudi le projet devant le Parlement, affirmant qu'il permettrait de lutter contre les organisations peu sérieuses et trompeuses qui ne remplissent pas leur mandat. L'Algérie met en cause les positions hostiles de l'hebdomadaire Jeune Afrique afin de justifier le refoulement d'un de ses journalistes à son arrivée à l'aéroport d'Alger, selon les déclarations du ministre algérien de la communication.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des groupes de la société civile haïtienne appellent la France à rembourser à Haïti les milliards de dollars de réparations que les anciens esclaves haïtiens ont été forcés de payer en échange de la reconnaissance de l'indépendance de l'île. Nani Tetalani.
La coalition d'une vingtaine d'ONG qui participent à Genève à un forum de l'ONU sur les questions concernant les personnes d'ascendance africaine exige la création d'une commission indépendante pour superviser le remboursement de la dette qualifiée de rançon. Les groupes proposent d'orienter ces fonds vers des projets de travaux publics en Haïti. La diplomatie française n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais la France avait déjà reconnu une dette morale envers Haïti. Cependant, les historiens ne sont pas d'accord sur le montant précis payé par Haïti. Certains experts estiment qu'elle pourrait être bien supérieure à 21 milliards de dollars et atteindre potentiellement des centaines de milliards de dollars vu les intérêts. Haïti est le premier pays des Caraïbes à obtenir son indépendance grâce à une rébellion d'esclaves. Cependant, la France a imposé une lourde dette à la nation nouvellement formée pour les revenus qu'elle disait avoir perdus. Ce n'est qu'en 1947 qu'Haïti a pu rembourser entièrement cette dette qui a paralysé son développement pendant près de 150 ans.
L'ambassadrice américaine à Moscou a dit avoir rendu visite jeudi en prison au journaliste Evan Gershkovich, détenu depuis plus d'un an pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. Didi Dico.
L'ambassadrice Lynn Tracy a rendu visite à Ivan Gershkovich du Wall Street Journal à la prison de Lefortovo où il est détenu à tort depuis plus d'un an, a indiqué l'ambassade américaine sur les réseaux sociaux. Le journaliste a été placé dans ce centre de détention de Moscou dans l'attente d'un possible procès ou d'un échange de prisonniers. Malgré l'attente prolongée de son procès, Ivan garde le moral porté par les messages de soutien qui ne cessent de lui parvenir, a précisé l'ambassade. Reporter au Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, âgé de 32 ans, a été arrêté en mars 2023 lors d'un reportage à Yekaterinburg, dans l'Oural. Il est le premier journaliste étranger arrêté en Russie pour espionnage depuis la chute de l'Union soviétique. Des accusations passibles de 20 ans de prison qu'il rejette, tout comme les États-Unis, son journal et ses proches.
Le patron de la CIA a prévenu jeudi que l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année 2024, à moins que les États-Unis ne lui fournissent davantage d'aide militaire. Sans aide supplémentaire, la situation est bien plus désastreuse, selon lui. L'avertissement du chef des services de renseignement américain, Bill Burns, intervient deux jours avant le vote programmé samedi de la Chambre américaine des représentants sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, après des mois de blocage politique. MSF a demandé jeudi à Mexico des politiques migratoires dignes et sûres face à la désespérance et l'abandon des migrants qui veulent se rendre aux États-Unis. MSF a présenté un rapport sur les conséquences médico-humanitaires dévastatrices des politiques migratoires restrictives en Amérique centrale et au Mexique, ainsi qu'à la frontière sud des États-Unis. Les États-Unis ont mis fin jeudi au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication honnie par leur allié israélien. Le projet de résolution présenté par l'Algérie qui recommandait l'adhésion palestinienne a recueilli 12 votes pour, un vote contre et 2 abstentions, Royaume-Uni et Suisse. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a fustigé le veto américain, y voyant une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens qui ont depuis 2012 le statut inférieur d'État non membre observateur, ainsi que les pays arabes, imploraient le Conseil d'accepter qu'un État palestinien déjà reconnu par la majorité des capitales prenne sa place légitime au sein des Nations Unies. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nanit Talani.
La croissance du Botswana devrait ralentir à 3,8% cette année en raison d'une baisse prévue de la production de diamants avant de se redresser progressivement en 2025 et dépasser les 4% compte tenu de la hausse des prix et des quantités de diamants produits. Les autorités prévoient aussi un ajustement budgétaire et un léger excédent budgétaire en 2025 qui devrait soutenir la reconstitution des réserves de change et des dépôts en espèces du gouvernement. Dans son budget 2025-2026, l'Afrique du Sud veut ajuster certaines taxes et introduire des hausses d'impôts et des réductions de dépenses. Un autre objectif sur lequel le gouvernement se concentrera dans les mois à venir consistera à consolider la pléthore de mesures de dépenses sociales et de subventions, a précisé le ministère des Finances. Pour terminer, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, dit travailler en étroite collaboration avec les autorités du Nigeria à la suite de la détention du responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la société et tenter de résoudre cette affaire, a déclaré le PDG Richard Teng. La justice nigériane détient 2 dirigeants de Binance accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars selon l'organisme nigérian anticorruption.
Et sans transition, nous retrouvons Yakuba Ouedraogo dans sa page des sports. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Balle au panier pour commencer. Les matchs de la Basketball Africa League saison 4 se poursuivent ce vendredi avec les rencontres de la conférence du Nil.
Oui, les matchs ont lieu au complexe sportif à Hassan Mustafa du Caire du 19 au 27 avril. 4 clubs à la Ligue d'Égypte haute, City Oilers de l'Ouganda, à la Ligue de la Libye et Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine se lancent à l'assaut des 2 premières places qualificatives directes pour les playoffs prévues à Kigali au Rwanda. Le match d'ouverture va opposer 2 clubs novices à la Ligue de la Libye et Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine qui sont à leur toute première participation. Coup d'envoi 14h temps universel et juste après à 17h l'équipe haute à la Ligue d'Égypte donc va affronter les City Oilers de l'Ouganda. Des rencontres que vous pouvez suivre à la radio sur les antennes de la VOA, partenaire de cette Basketball Africa League depuis sa toute première édition.
Ce vendredi, Yakuba, se jouent les demi-finales de la CAN Futsal au Maroc.
Avec le soutien de son public de la salle Ibn Yassine de Rabat, le Maroc va faire face à la Libye qui fait preuve de beaucoup de détermination dans cette compétition. Dans l'autre demi-finale, l'Égypte tenante du titre et l'Angola qui veut créer la surprise vont se disputer une place en finale. Les finalistes et l'équipe classée 3e vont représenter l'Afrique à la Coupe du monde de futsal prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
L'UEFA sanctionne le FC Barcelone pour comportement raciste.
L'instance européenne du ballon rond a condamné le club catalan au paiement de 25 000 euros d'amende pour le comportement raciste de ses supporters. 2 fans barcelonais ont été interpellés à Paris le 10 avril pour des saluts nazis pendant le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. Les autorités françaises les ont accusés d'apologie des crimes de guerre et injures publiques à caractère raciste au Parc des Princes où le PSG rencontrait justement le FC Barcelone. La formation catalane a aussi été interdite de vendre des billets pour le déplacement de ses supporters lors de son prochain match dans le cadre d'une compétition de l'UEFA, une sanction assortie d'un sursis d'un an.
La page des sports, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La France et la République centrafricaine ont adopté une feuille de route mercredi pour relancer leurs relations lors d'une rencontre à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Faustin Archange Touadéra. Cette feuille de route vise à établir un partenariat constructif respectueux de la souveraineté de l'État, favorisant la stabilité, la cohésion nationale et le développement socio-économique et social du Centrafrique. Un mécanisme conjoint de suivi de ces engagements a également été adopté par les deux dirigeants. Pour en parler, John Lindon a joint à Kinshasa l'analyste politique Henri-Désiré Nzouzi.
La dernière visite de Touadéra en France remonte à l'année passée, hein, au mois de septembre 2023, où il y avait déjà eu une tentative de rapprochement, mais cela n'est pas surprenant. Il faut bien regarder le contexte dans lequel se trouve la France aujourd'hui, une perte de vitesse évidente dans le Sahel, et surtout la volonté de pouvoir préserver ce qui reste encore, je dirais, de pays qui pourraient maintenir une forme de coopération, en dépit du fait, vous l'aurez compris, que depuis 2018, ce sont les Russes à travers Wagner qui ont repris d'une certaine manière le destin sécuritaire de la Centrafrique.
Vous parlez de feuille de route, celle signée donc pour la coopération bilatérale entre la France et la RCA parle d'accompagner le développement économique et social de la RCA. Ce qu'on observe souvent, c'est que ce développement économique se résume dans la plupart des cas à l'implantation des entreprises françaises ou même étrangères sur le continent. Les partenaires étrangers parlent très peu du transfert de technologies. Pourquoi cela et comment changer la donne?
Alors, il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, la Centrafrique, comme d'ailleurs certains pays du continent africain, ont décidé de diversifier leur partenariat sur le plan économique. Dans le cas d'espèce, je dirais que c'est la France qui était beaucoup plus demanderesse et qui avait plutôt intérêt à renouer d'une certaine manière les fils du dialogue pour essayer de maintenir une forme d'influence à travers des entreprises qui continuent, en dépit des difficultés, d'avoir un savoir-faire et une excellente connaissance, je dirais, de l'environnement. Il est vrai qu'aujourd'hui, la Centrafrique a l'avantage d'avoir justement dans son escarcelle d'autres alliés, d'autres partenaires qui, je dirais, relativisent un tout petit peu le poids d'une France qui aujourd'hui se sent bien obligée de reprendre pied à travers cette feuille de route qui, on le verra avec le temps, si elle permettra à la Centrafrique, en tout cas, d'envisager une relation gagnant-gagnant, mais en sachant par ailleurs que la Centrafrique, aujourd'hui, a la totale liberté de se choisir librement ses alliés.
Mais le président centrafricain a parlé de diversification, vous l'avez évoqué, des partenaires. Ces dernières années, la RCA s'était plus tournée vers la Russie. Une certaine opinion pense que la lune de miel est terminée. Est-ce que c'est le cas, selon vous?
Non, en tout cas les signes que nous avons ne le montrent pas. Vous savez, depuis le départ des Perviers en 2014, après qu'il y ait eu, à la suite de la MINURCA, la mise en place de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies en Centrafrique, on a vu cette cohabitation se faire depuis 2018 avec les Russes qui ont toujours le même agenda, c'est-à-dire une sécurisation des institutions, un accompagnement dans la formation, de l'armée, peut-être même une lutte contre les groupes armés, en échange évidemment d'un accès prioritaire, voire illimité, aux ressources naturelles. Voilà. C'est un deal qui a l'avantage de satisfaire à la fois Russes et Centrafricains.
L'analyste politique Henri-Désiré Nzouzi, joint à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Mali, les autorités ont dissous la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, lui reprochant des agissements de nature à troubler l'ordre public et de menacer à l'unité nationale. Ce mouvement est formé de partis politiques et d'organisations de la société civile, comme la coordination des mouvements, associations et sympathisants dont l'influent imam Mahmoud Diko, dissoute elle aussi début mars. Bamako a récemment suspendu les activités des partis et associations à caractère politique et l'interdiction aux médias de couvrir leurs activités. Bagasikoura, adjoint à Bamako, Ibrahima Nabi Togola, l'un des porte-parole de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali.
Notre réaction, c'est que d'abord, c'est une décision qui ne nous a pas du tout surpris. Parce que, comme vous le savez, la transition est arrivée à terme depuis le 26 mars dernier, selon la charte de la transition. Nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous n'avons pas participé à l'élaboration ou même à donner des dates en ce qui concerne la gestion de la transition, la période de la gestion de la transition. C'est les autorités, les anciennes autorités de la transition qui ont pris cet engagement devant la nation malienne, devant la communauté internationale, et à ces jours-là, ils n'ont pu absolument rien faire.
Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Le délai de la transition, c'est inscrit dans la charte de la transition. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est la constitution de la nation malienne qui dit que nul ne peut exercer le pouvoir en République du Mali sans passer par les urnes. Et ça également, c'est une donnée universelle aujourd'hui dans le monde entier. Personne ne peut prétendre gouverner une nation aujourd'hui sans passer par les élections. Donc, nous, notre revendication, c'est un retour à l'ordre constitutionnel normal. Chose que les autorités en place ne veulent pas. Donc, ils trouvent toujours des moyens pour incriminer les gens, pour arrêter les gens, pour emprisonner les gens et empêcher les gens quand même de dire leurs pensées. Et la liberté d'association, l'existence des partis politiques, mais c'est garanti par la constitution de la République du Mali. Et aujourd'hui, nous ne faisons que dénoncer ces dérives autoritaires-là au Mali. Donc aujourd'hui, toute personne qui dit autre chose, qui n'est pas ce que veut, ce qui nous gouverne aujourd'hui, il est indexé d'apatride, il est indexé comme quelqu'un qui trouble l'ordre public. Donc, honnêtement, aujourd'hui, nous-mêmes, on est perdus. Oui. Parce que nous réfléchissons.
Et quelles sont les activités que mène cette organisation, la coordination des organisations de l'appel du 20 février?
L'appel du 20 février est une organisation citoyenne. C'est composé de magistrats, d'hommes politiques et de la société civile, et même des particuliers. Notre objectif n'est autre chose que le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et en ce qui concerne le délai de la transition, mais c'est la charte de la transition qui a fixé le délai de la transition et la transition devait prendre fin le 26 mars dernier. Donc nous ne faisons que leur rappeler à leur engagement. Parce qu'ils ont pris un engagement devant le peuple malien, ils ont pris un engagement devant la communauté internationale. Donc quand ces engagements-là arrivent à terme et que nous dénonçons ces états de fait, mais nous ne sommes pas en faute.
Ibrahima Nabi Togola, l'un des porte-parole de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le cancer de la prostate est un diagnostic dévastateur auquel sont confrontés des millions d'hommes dans le monde. Une nouvelle analyse de la commission Lancet suggère que les cas annuels de cancer de la prostate devraient doubler d'ici 2040. Jini Niwa.
Joe Appiah, athlète de haut niveau, célèbre pour avoir détenu de nombreux records d'Europe et de Grande-Bretagne en haie, s'est retrouvé face à un adversaire inattendu en 2021, le cancer de la prostate. Se remémorant son parcours, Appiah raconte la situation.
In a way, I'm lucky.
D'une certaine manière, j'ai de la chance.
Didn't have no symptoms.
Je n'avais aucun symptôme.
I wasn't really aware of prostate
Je n'étais pas
cancer.
Vraiment au courant du cancer de la prostate.
But my friend...
Mais mon ami m'a appelé et m'a dit, j'ai ce cancer. J'ai répondu, comment ça? Tu as ce cancer? Il a le même âge que moi. Il est en bonne santé et en pleine forme. Nous nous connaissons par le biais du sport, alors j'ai été choqué. Mais il m'a encouragé à aller me faire dépister.
Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes, représentant environ 15% des cas de cancer dans le monde. Nick James, professeur de cancérologie.
Actuellement, environ 1 400 000 hommes sont diagnostiqués chaque année avec un cancer de la prostate. Ce chiffre devrait doubler au cours des 10 à 15 prochaines années et presque tous les cas supplémentaires se produiront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Les experts affirment que les gouvernements doivent se préparer de manière proactive à faire face à cette augmentation du nombre de cas en mettant en place des systèmes solides de diagnostic et de traitement précoce. En outre, la sensibilisation joue un rôle essentiel. Les données du programme GloboCan 2020 indiquent que le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes d'Afrique subsaharienne. Selon les observateurs, les décès récents des Afro-Américains, Lou Gossett Jr. et O.J. Simpson, à moins d'un mois d'intervalle, nous rappellent que les hommes noirs sont plus susceptibles de se voir diagnostiquer un cancer de la prostate et d'en mourir. Selon Prostate Cancer UK, un homme noir sur quatre sera touché au cours de sa vie.
La bonne chose, c'est que mon cancer a été détecté tôt et qu'ils ont fait le test de suivi, à savoir le PET scan. Lorsque j'ai fait un PET scan, c'est pour savoir si le cancer s'est propagé à partir de la prostate. Lorsque j'ai fait cet examen, le mien était à l'intérieur de la prostate, ce qui signifie qu'il est possible de faire quelque chose, ce qui me donne beaucoup plus d'options de traitement.
Comme le montre l'histoire d'Apia, la détection précoce par le biais d'un dépistage proactif peut améliorer considérablement les résultats du traitement.
Le candidat républicain pressenti à la présidence des États-Unis, Donald Trump, se trouve cette semaine dans un tribunal de New York pour la sélection du jury dans une affaire où il aurait falsifié des documents commerciaux. Pendant ce temps, son adversaire démocrate, le président Joe Biden, est en campagne et parle des visions concurrentes des candidats en matière d'équité économique. Scott Stearns raconte avec la voix de Gabi Dorsil.
Les candidats Joe Biden et Donald Trump ont eu des emplois du temps très différents cette semaine. Donald Trump se trouve dans un tribunal de New York où il doit répondre de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux.
Je ne sais pas comment on peut avoir un procès qui se déroule en plein milieu d'une élection. Ce n'est pas juste.
Biden est en campagne près de la maison de son enfance dans l'état voisin de Pennsylvanie. Le procès de Donald Trump porte sur sa tentative d'étouffer des articles de presse peu flatteurs pendant sa campagne de 2016. Les procureurs affirment que Trump a falsifié des paiements à un ancien avocat pour cacher que l'argent était destiné à deux femmes qui disaient avoir eu avec lui des relations sexuelles extra-conjugales. Trump a plaidé non coupable de ces accusations et ses avocats soutiennent que les paiements étaient des dépenses légales et légitimes. Trump affirme que le fait de le lier au tribunal constitue une ingérence électorale de la part d'un système judiciaire instrumentalisé.
C'est un assaut contre notre pays et c'est un pays qui échoue. C'est un pays qui est dirigé par un homme incompétent qui est très impliqué dans cette affaire. Il s'agit en fait d'une attaque contre un adversaire politique. C'est tout ce que c'est.
Trump n'est pas obligé de témoigner lors de ce procès, mais l'ancien procureur fédéral Nima Rahmani pense que la politique veut qu'il le fasse.
Cette affaire concerne autant la cour que le tribunal de l'opinion publique. Et Trump est au milieu d'une année électorale et il prendra la parole et il parlera au peuple américain et aux électeurs indécis. Je pense que le fait qu'il ait affirmé son droit de garder le silence sera utilisé contre lui par les électeurs indécis.
Alors que son adversaire est au tribunal, Joe Biden a la piste de la campagne présidentielle pour lui tout seul.
Donald Trump looks at the world differently than you and me.
Donald Trump voit le monde différemment de vous et moi. Il se réveille le matin à Mar-a-Lago en pensant à lui-même. Comment il peut aider ses amis milliardaires à prendre le pouvoir et le contrôle et à imposer leur programme extrême au reste d'entre nous? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Je serai un dictateur dès le premier jour. Je suis votre rétribution. »
Biden a déclaré que Trump et lui ont des visions concurrentes de l'économie américaine qui soulèvent des questions d'équité fondamentales.
Mes amis, nos origines sont importantes. Quand je regarde l'économie, je ne la vois pas à travers les yeux de Mar-a-Lago. Je la vois à travers les yeux de Scranton. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est un fait. Là où l'honnêteté et la décence comptent, là où la foi compte, là où la famille est tout.
Donald Trump a fait campagne dans l'État de New York en marge du procès, mais ses déplacements dans les États les plus compétitifs semblent pour l'instant se limiter au week-end.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Eric Manilakiza à ce micro, Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Bon week-end à vous tous et à la prochaine.